France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique, comme chaque samedi à la même heure sur France Info, Radio et Télé, toujours comme chaque samedi également en compagnie de Jannick Halimi, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, qui est notre partenaire pour cette émission. C'est vous, Jannick, qui posez la première question à notre invité, Maëlle de Calan, conseiller départemental du Finistère et candidat à la présidence des Républicains.
Maëlle de Calan, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un secret pour personne, hein. Laurent Wauquiez est archi favori dans cette course à la présidence des Républicains. Alors permettez-moi de vous poser une question, à quoi sert votre candidature ?
Moi je me bats pour des idées, moi je me bats pour une cause, je me bats pour défendre au sein des Républicains les idées de la droite modérée, une droite qui est très attachée à l'Europe, une droite qui est très attachée à la fois à la réforme économique du pays, qui est libérale et qui est attachée à l'équilibre social du pays. Bref, une droite qui est probablement majoritaire d'ailleurs dans notre électorat et qui ne pouvait pas être absente de notre débat interne. Toujours eu plusieurs sensibilités à droite, celle que Laurent Wauquiez incarne, une droite très conservatrice, très dure d'une certaine manière, à sa place dans les Républicains, mais ne veut pas étouffer toutes les sensibilités, à commencer par celle que je porte, qui aurait pu être portée par d'autres, par Xavier Bertrand, par Valérie Pécresse. Ils ont décidé de ne pas y aller.
Vous regrettez le fait qu'ils ne soient pas engagés? C'est une erreur de leur part.
Je comprends leur décision. Ils avaient pris l'un et l'autre des engagements devant leurs électeurs. Il faut que les responsables politiques tiennent leurs engagements. Donc moi, je la comprends, je l'accepte. J'ai eu du coup la responsabilité assez lourde quand on a que 37 ans.
Oui, mais vous risquez de perdre.
D'incarner cette tradition dont je répète qu'elle est probablement majoritaire dans notre électorat.
Pour ce scrutin, il y a le débat d'idées sur le fond et sur la forme. Laurent Wauquiez ne voulait pas de débat télévisé. Ce que ne comprend pas la troisième candidate, Florence Portelli, c'était jeudi sur l'antenne de Sud Radio.
Dire qu'un parti qui prétend être le premier parti d'opposition dans une démocratie occidentale au XXIe siècle a peur d'aller à la télévision, franchement, c'est vraiment pour moi incompréhensible et j'ai même un sentiment de honte.
Alors il se dit en coulisses que Laurent Wauquiez, qui se sait favori, aurait eu peur de ce débat télévisé parce que vous auriez pu gagner des points et des voix. Pourquoi vous avez accepté, vous, un débat avec militants devant la presse mais pas télévisé ?
Non, mais on espère qu'il le sera quand même. Laurent Wauquiez voulait que ce débat ne se tienne pas sur un plateau de télé, mais dans une salle avec nos adhérents. Très bien, moi je l'accepte, parce que j'ai envie que ce débat ait lieu. Et il faut pas, on peut pas contraindre un âne qui a pas envie de boire à le faire. Mais je crois qu'il est indispensable qu'il soit télévisé. Pourquoi ? Parce que on a 235 000 adhérents et qu'on va avoir du mal quand même à trouver une salle pour contenir ces 235 000 personnes et une date qui convienne à tout le monde. Donc pour la plupart de nos adhérents, ce débat télévisé serait la seule opportunité qu'ils auraient de confronter nos stratégies, nos programmes. J'ajoute que ce débat, on le doit pas seulement à nos adhérents, je crois qu'on le doit aussi à nos électeurs. À partir du moment où on prétend être le principal parti de la droite et du centre, à partir du moment où on prétend être le principal parti d'opposition, un parti moderne, on ne peut pas choisir nos orientations stratégiques et politiques sans en parler à nos électeurs qui ont le droit de savoir où vont les Républicains.
Mais de toute façon, ce débat télévisé n'aura pas lieu. L'affaire est entendue.
Non,
il y a encore une possibilité de...
La proposition qu'on a faite à Laurent Wauquiez, c'est de le faire dans une salle avec des adhérents, interrogé pourquoi pas par un panel d'adhérents, mais évidemment ouvert à la presse, ouvert à toutes les télés qui voudront bien venir le retransmettre. Et je sais qu'il y a des chaînes d'infos en continu qui sont intéressées.
Donc cette option reste ouverte.
Oui, comme le sont d'ailleurs toutes nos réunions publiques. Depuis plus de 15 ans... Toutes nos réunions nationales, les conseils nationaux sont ouverts à la presse et notamment à la presse télévisée. Mmh. Et ce serait bien la première fois qu'on les maintiendrait à la porte.
Mais est-ce que ce débat sur la ligne, on va dire idéologique, politique du parti va vraiment avoir lieu? Imaginons, Laurent Wauquiez promet qu'il y aura un débat, mais je parle d'un débat de fond, hein, sur les idées. Si jamais il s'impose très largement, est-ce qu'il pourra prendre en compte votre sensibilité, celle de Florence Portelli, et les inclure à son programme ou à sa façon de diriger?
Oui, mais il aura d'autant plus l'obligation de le faire si c'est lui qui l'emporte que les idées que je porte sont celles d'une droite modérée qui est majoritaire dans l'électorat.
Tendance du pays.
On le voit pas seulement, il y a dans mon équipe de jeunes élus qui forment un collectif et qui sont issus de toutes les sensibilités de la droite. Il y a des gens qui sont engagés avec Sarkozy, c'est le cas de Jean-Baptiste de Froment, d'autres avec François Fillon, d'autres avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Et donc nous, on représente un courant de pensée qui est extrêmement cohérent, qui est une droite qui est vraiment de droite, mais qui pousse pas tous les curseurs au maximum, une droite qui reste très attachée à la construction européenne, une droite qui est très ferme sur les questions de sécurité et de justice,
et
qui le fait avec le soutien souci de la cohérence, de la crédibilité, qui n'est pas une droite de slogan. Cette droite qui est majoritaire dans notre électorat, elle doit peser au sein des Républicains, et quel que soit le score qu'on fera au Congrès, elle pèsera. Elle pèsera juste d'un mot, parce que le parti qui représente la droite et du centre ne peut pas être complètement décalé avec les convictions, les aspirations, les valeurs des électeurs de la droite et du centre.
Mais Maëlle de Calan, Matteo Mastraichi le rappelait, vous êtes plutôt pro-Juppé, or Alain Juppé n'est pas du tout apparu, si je puis dire, pendant cette campagne. On l'a plutôt vu aux côtés d'Édouard Philippe, qui est le premier ministre d'Emmanuel Macron, et très peu auprès de gens comme vous, et en tout cas dans le cadre de cette campagne-là. Comment expliquez-vous cette absence
Alain Juppé, il est membre des Républicains, il est à jour de ses cotisations, il a à plusieurs reprises dit qu'il espérait qu'une nouvelle génération dont je fais partie pourrait incarner ses idées d'une droite modérée dans le parti. Je note que tous les conseillers municipaux de Bordeaux, membres des Républicains, m'ont parrainé, sans aucune exception. Donc ce sont des signaux qui sont envoyés de soutien à ma candidature. Maintenant, j'ai pas du tout envie de le faire parler. Il dira, s'il le souhaite, et le jour il le voudra, pour qui il vote.
Très bien. Mais alors, Maëlle de Calan, il y a quelqu'un d'autre chez les Républicains qui s'est exprimé hier, c'est Nicolas Sarkozy. Vous l'avez probablement entendu. Pardon, il remettait la Légion d'honneur. Excusez-moi.
À Valérie Debord.
Voilà, à Madame Debord, qui est l'adjoint au maire de Nancy. Et il appelait le Parti Républicain à l'unité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si Laurent Wauquiez remporte la partie, il vous pousse à se rallier à Laurent Wauquiez? C'est ça? Vous le comprenez de cette façon?
Ça veut dire d'abord, parce qu'il s'est exprimé de manière très précise sur le sujet, que les Républicains, qui avaient 350 députés en 2002, 300 et quelques en 2007... 220, je crois, en 2012 et 110 aujourd'hui, ne peuvent pas continuer à exclure des députés. Je pense en particulier aux députés constructifs qui sont membres des Républicains, qui payent leurs cotisations aux Républicains, qui partagent les idées des Républicains, et que certains concurrents, je pense en particulier à Florence Portelli, veulent absolument exclure. Comme si jamais on revenait à la médecine du XVIIIe siècle, consistant à appliquer des sangsues ou à faire des saignées à des malades. On ne peut pas, quand on est un corps malade, et c'est le cas des Républicains, se couper un bras ou une jambe. C'est d'abord à ça qu'il faisait allusion.
On va revenir sur les questions évidemment de vie politique et de ces constructifs justement dont vous parliez dans un instant, Maëlle de Calan. Restez avec nous à 8h40 sur France Info. C'est l'info avec David Daubard.
Emmanuel Macron préside ce matin l'éco-cérémonie du 11 novembre. Le chef de l'État rendra hommage avant de remonter l'avenue des Champs-Élysées à Georges Clemenceau. Il se recueillera par la suite sur la tombe du soldat inconnu. D'où vient la pollution au ruthénium 106 observé en France à la fin du mois de septembre? Eh bien, c'est ce que tentent de comprendre les spécialistes de l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les regards se tournent vers une zone située entre la Volga et l'Oural, mais les autorités locales démentent l'information. L'entourage de Donald Trump, une nouvelle fois au cœur d'une polémique. Elle concerne cette fois-ci Michael Flynn. Michael Flynn, c'est l'ex-conseiller à la sécurité. Il pourrait être impliqué dans un projet visant à extrader l'opposant turc Fethullah Gulen. Selon le Wall Street Journal, 15 millions de dollars lui auraient été proposés. Et puis Nikola Karabatic, suspendu pour 6 matchs de toute compétition nationale, et ce dans le cadre de l'affaire des fameux paris truqués. Deux de ces matchs sont aménageables en travaux d'intérêt général. Décision prise par la Ligue nationale de hand.
France Info. 8h30 politique sur France Info, toujours en compagnie de Jani Calimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et notre invité Maëlle de Calan, candidat à la présidence des Républicains. Nous sommes à deux jours du deuxième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. Ils avaient fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Écoutez ce qu'en disait hier sur notre antenne le procureur de la République de Paris, François Molins.
L'année 2017 est peut-être marquée par une recrudescence des actions isolées. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis Jouer les Tours fin 2014, 17 attaques individuelles, il y en a 11 qui ont eu lieu uniquement pendant l'année 2017. Je pense que ça illustre bien la montée en puissance de ce qu'on appelle la menace endogène.
On est sur une menace interne désormais. Alors deux questions en une, Maëlle de Calan. Est-ce que le pays est mieux protégé aujourd'hui, deux ans après? Et est-ce que vous auriez voté la nouvelle loi antiterroriste?
Oui, le pays est mieux protégé parce qu'en permanence dans les démocraties, il y a une balance entre la sécurité et les libertés. Et cette balance, ce curseur doit s'adapter à la menace. Et à mesure que la menace terroriste s'est développée, on a, c'est vrai, renoncé à certaines libertés que moi je considère comme étant bien encadrées malgré tout, mais à certaines libertés pour renforcer notre sécurité collective en donnant plus de moyens juridiques, plus de moyens matériels à ceux qui luttent au quotidien contre les terroristes. J'aurais voté, moi, la loi qui transcrivait dans le droit commun une partie des dispositions d'état d'urgence. Pourquoi ? Parce que la menace terroriste, c'est maintenant une menace permanente. On ne peut pas répondre à une menace permanente avec des dispositions d'exception. Et il fallait bien qu'on ait dans notre droit commun, dans notre droit de tous les jours, en quelque sorte, les dispositions dont les magistrats antiterroristes et dont les policiers antiterroristes, dont l'administration avait besoin pour lutter contre ceux qui cherchent à commettre des attentats. Je voudrais finir d'un mot en disant que... J'ai beaucoup entendu de la part des défenseurs des libertés, c'est très bien qu'ils s'expriment, l'argument selon lequel il fallait surtout pas toucher justement à notre système juridique parce que c'était une concession qu'on donnait aux terroristes qui voulaient avant tout nous faire changer. Moi, je voudrais répondre que avant de nous faire changer, les terroristes cherchent surtout à nous tuer, ils cherchent à nous attaquer et qu'il faut avant tout qu'on garantisse aux Français la liberté.
Le message est passé, Jeannick.
Mais vos collègues députés, les Républicains, sont abstenus ou ont voté contre plutôt cette loi pour des raisons inverses, c'est-à-dire qu'ils estiment que les mesures de sécurité ne sont pas assez fortes. Donc finalement, vous êtes plus près des constructifs qui ont voté la loi de vos collègues députés, les Républicains.
Non, moi, je suis surtout plus proche de la majorité sénatoriale de droite qui, derrière Gérard Larcher, est complètement sur cette ligne. Comme d'ailleurs un certain nombre
vous
de députés...
Vous êtes plutôt sénateur que député, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, dans l'âme.
Je crois que ceux qui ont porté ce discours à l'Assemblée, Éric Ciotti et Guillaume Larrivé, ont fait preuve d'une surenchère, avec beaucoup de mauvaise foi d'ailleurs, disant qu'on allait affaiblir les sécurités, la sécurité des Français. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines dispositions qu'on encadre davantage, en particulier la possibilité d'assigner à résidence, d'une part, et d'autre part la possibilité de faire des perquisitions, notamment de nuit, sans autorisation du juge. Donc on encadre un peu plus ces deux dispositions, mais en réalité, et ça ils ont oublié de le dire aux Français, ce sont deux dispositions qui n'étaient quasiment plus appliquées aujourd'hui. Donc je crois que ceux qui prétendent qu'on a affaibli la sécurité des Français se trompent et qu'il était bon de mettre dans le droit commun des dispositions qui étaient des dispositions d'exception.
Je voudrais revenir très rapidement sur les Républicains. Quel rôle vous pensez pouvoir jouer auprès de Laurent Wauquiez s'il est élu ? Comment pouvoir peser de tout votre poids pour infléchir la ligne qui est la sienne aujourd'hui ?
En
On
faisant
comprend
valoir,
pas trop comment.
Ah ben c'est très simple, en structurant au sein des Républicains un courant d'idées, de pensées, dans lequel se reconnaissent des gens comme Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand, comme Gérard Larcher,
mais qui vous rejoindront,
comme Gilles Carrez.
Qui vous rejoindront,
il
ne
s'agit pas
tout
de faire en sorte qu'ils me rejoignent. Il faut que tous ces gens travaillent ensemble au sein des Républicains, au sein du bureau politique, qui est notre organe de gouvernance. Ce n'est pas le président qui décide de tout au sein des Républicains,
donc,
c'est le bureau politique.
Comme au sein du Parti Socialiste à l'époque.
Il y aura un courant qui existe déjà, mais qui doit se structurer, qui doit travailler ensemble, qui doit faire en sorte que, collectivement, tous ceux qui se reconnaissent dans cette droite libérale, européenne,
mais
dans cette droite sociale,
se
travaillent ensemble.
Ça veut dire quoi, concrètement ?
Ça veut dire c'est un courant. Ça veut dire se coordonner avant chaque réunion pour définir des messages communs, pour faire en sorte que...
Donc une sorte de fronde intérieure républicain face à Laurent Wauquiez.
C'est pas une fronde dans le sens où il s'agirait en permanence de tailler des croupières au président, si c'est lui le président. C'est un courant de pensée qui se demande à chaque fois si les décisions qui sont proposées par la direction sont conformes à nos valeurs. Dans nos valeurs, il y a la volonté de répondre, par exemple, aux défis migratoires, on n'en a pas encore parlé, mais avec des solutions précises. On veut réduire les flux migratoires, mais on ne se contente pas du yaka faucon, de slogan à l'emporte-pièce, on veut y apporter des solutions très précises. Donc ce courant, qui est celui d'une droite de gouvernement, d'une droite crédible, s'il agit en commun, si des personnalités de premier plan agissent en commun, il peut peser très lourd.
Maëlle de Calan, pardonnez la question, mais vous êtes jeune, ambitieux, vous êtes tenant d'une droite que vous dites modérée. Pourquoi vous n'avez pas rejoint Emmanuel Macron ? Parce que certains de vos collègues l'ont fait, comme Aurore Berger par exemple, de collègues jupéistes, et vous avez refusé notamment l'investiture La République En Marche dans votre circonscription du Finistère. Est-ce que vous le regrettez a posteriori ?
Non, parce que...
Qu'est-ce qui vous sépare de lui, finalement ?
Je m'engage pour des idées, pour des politiques publiques et pas uniquement pour des discours. Il y a des discours que porte Emmanuel Macron, discours de réforme, discours européen, qui va dans le sens de ce que je crois. Mais en politique, et en particulier quand on a été élevé à la politique par Alain Juppé, on ne se contente pas des discours, on regarde les petites lignes. Et moi, quand je regarde les petites lignes, concrètement, les politiques publiques qui vont être conduites, j'ai plus de points de désaccord que de points d'accord. Je vous en donne deux, par exemple, sur les questions budgétaires qui sont à l'ordre du jour. Moi, je suis opposé à la suppression de la taxe d'habitation, qui va creuser le déficit
de 10 milliards d'euros.
C'est une mesure très populaire. Oui, d'accord, mais on a 80 milliards d'euros de déficit cette année, on a 2 200 milliards d'euros de dette, et on ne peut pas dire d'un côté, on va réduire le déficit, puis de l'autre, on baisse massivement, et sans les financer, les impôts des Français. Il faut que les baisses d'impôts soient associées à des baisses de dépenses. Donc moi, je suis opposé à cette mesure. Je suis aussi opposé à la stabilité des effectifs. Les effectifs de la fonction publique ne vont quasiment pas diminuer dans le budget 2018. C'est une grosse erreur.
Tant Alain Juppé, qui était votre favori,
voulait réduire les effectifs de 250 000.
Et c'est dans ce sens qu'il faut... Beaucoup plus que ce que prévoit Emmanuel
Macron.
Mais bien
sûr, et c'est la raison pour laquelle, moi, ce budget, je ne l'aurais pas voté, parce qu'on augmente la CSG, parce qu'on supprime la taxe d'habitation, parce qu'on ne touche pas aux effectifs, parce qu'on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite. Et juste pour finir d'un mot, pour bien exposer le raisonnement, il n'y a pas de croissance économique possible en France si on ne baisse pas les impôts. Et il n'y a pas de baisse d'impôts possible en France de manière durable si on ne baisse pas la dépense.
Il y a un certain nombre de Français, une majorité, qui sont mécontents des 6 premiers mois d'Emmanuel Macron à la tête du pays. Et certains contempteurs, ou pas d'ailleurs, disent qu'il mène une politique de droite, lui et son gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que ça vous ressemble, cette politique qui est menée de votre côté droit?
À certains égards, oui. Quand Emmanuel Macron met plus de liberté dans le marché du travail, qui baisse les réglementations tatillonnes du marché du travail, il crée de l'emploi et c'est ce que nous souhaitions. Quand il supprime une partie de l'ISF, il crée de l'emploi en réalité et c'est ce que nous souhaitions. Donc oui, Emmanuel Macron fait une partie du chemin, mais une partie seulement. Il y a des sujets sur lesquels il va dans la mauvaise direction, je l'ai indiqué. Il y a d'autres sujets sur lesquels il ne va pas assez loin.
Par exemple, vous seriez allé plus loin sur quoi?
Par exemple, en matière de réforme du marché du travail, Emmanuel Macron ne touche pas aux seuils sociaux. Emmanuel Macron ne revient pas sur la durée du travail qui est à 35 heures, ce qui a énormément pénalisé l'économie française. Emmanuel Macron ne touche
pas
au
contrat de travail. Donc vous dites que vous êtes social, mais vous seriez encore plus libéral qu'Emmanuel Macron.
Moi, la politique sociale que je défends et la politique sociale que défend la droite, c'est une politique qui consiste à donner du travail et du salaire aux Français et pas des subventions.
D'accord. Très bien.
À la fois social et libéral. Tiens, on va gagner un petit peu de temps sur la suite parce qu'on a encore pas mal de questions d'actualité à voir avec vous. Maëlle de Calon, restez évidemment avec nous. 8h30 politique continue sur France Info. Avec un petit peu d'avance, l'info à 8h50, c'est avec David Doba, 8h49 du coup.
Et comme tous les ans, on commémore aujourd'hui la signature de l'armistice de 1918. C'est Georges Clemenceau qui est à l'honneur. Emmanuel Macron lui rendra hommage ce matin en se rendant au musée qui porte son nom avant de remonter l'avenue des Champs-Élysées et de déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Plusieurs centaines de milliers de personnes attendues, 1 million espérés. La Catalogne se mobilise une nouvelle fois. Les pro-indépendantistes se réunissent à partir de 17h heure française à Barcelone. Ils demandent notamment la libération de leurs dirigeants. La ville de Paris mise en examen pour favoritisme dans l'enquête sur les conditions d'attribution de l'emplacement de la Grande Roue, celle qui est située place de la Concorde, un manège propriété de Marcel Campion, une attraction que la municipalité souhaite de toute façon voir démontée d'ici l'été 2018. Et puis les Bleus ne pouvaient pas mieux débuter leur préparation pour le Mondial également de 2018. Ils se sont imposés hier soir sur la pelouse du Stade de France face au Pays de Galles 2-0, but inscrit par Griezmann et Giroud. Mise en jambe avant d'affronter l'Allemagne, ce sera à Cologne mardi prochain.
Suite et fin du 8h30 politique de France Info, toujours avec notre invité Maëlle de Calon, candidat à la présidence des Républicains, et Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Aujourd'hui en France, c'est à vous Yannick.
Oui, alors Maëlle de Calon, on a bien compris que vous étiez bien libérale hein, et que vous étiez plutôt pour les baisses d'impôts. Cette semaine, on a découvert ce qu'on a appelé les Paradise Papers, où on apprend que de nombreux groupes, ou des personnalités également, mais de nombreux groupes optimisent, ce ne sont même pas des fraudeurs pour la plupart d'entre eux, mais font des montages fiscaux pour optimiser donc leur ardoise fiscale et l'alléger le plus possible. Est-ce que vous estimez que c'est normal, légitime et qu'il faut accepter cela?
Avant de vous répondre, je voudrais dire qu'il n'y a pas de contradiction entre être libéral et social. Moi, j'appartiens à cette droite humaniste qui accorde énormément d'importance à l'équilibre social du pays, à l'ascenseur social. Mais notre politique sociale, je le redis, c'est de donner du travail aux gens.
Oui,
et, si demain la droite, elle crée des millions d'emplois pour les Français, elle aura mené la politique sociale la plus ambitieuse des 40 dernières années dans notre pays. Pour vous répondre, les Paradise Papers soulignent quelque chose qui est gravissime dans une démocratie.
Ce ne sont pas des fraudeurs pour la plupart d'entre eux.
On ne le sait pas encore. Il y a quand même une disposition dans le droit français qui s'appelle l'abus de droit et qui consiste à dire que quand vous mettez en place des mécanismes fiscaux dont le seul objectif est d'échapper à l'impôt, il n'y a pas d'autre objectif que celui-là, vous êtes dans la fraude fiscale.
Donc on va voir,
je ne sais pas, je ne suis pas magistrat, mais il est tout à fait possible que beaucoup de ce qu'on lit dans les journaux soit en réalité de la fraude fiscale, contrairement à ce que disent les intéressés qui se retranchent derrière la légalité. Mais je voudrais vous dire que
allez, c'est gravissime. Allez-y, je vais vous faire réagir quelque chose après.
Parce qu'à chaque fois que des gens ne payent pas l'impôt, non seulement il y a une question d'efficacité, il faut quand même faire rentrer l'argent, il y a aussi une question de morale, tout le monde doit respecter les règles, mais il y a aussi une question beaucoup plus grave, de respect de la démocratie et du respect du pacte démocratique. Vous savez que le consentement à l'impôt, c'est quelque chose qui fonde nos démocraties et on le mine à chaque fois que des gens comme ça, des sociétés, des individus, réussissent à y échapper. Je crois qu'on doit y répondre avec énormément de fermeté. Je dis à tous ceux qui désespèrent parfois de l'action politique que depuis 3 ans, beaucoup de progrès ont été enregistrés. Il faut continuer à aller dans ce sens parce que l'histoire un peu de l'humanité, c'est celle d'une course éternelle entre les policiers et les voleurs en quelque sorte et il faut en perdre continuer à renforcer notre arsenal.
Vous parliez tout à l'heure du Sénat et des Républicains au Sénat. Vous parlez à l'instant de morale. Écoutez ce que disait cette semaine sur Public Sénat à propos des Paradise Papers, votre collègue sénateur de la Meuse, Gérard Longuet.
Quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, mais pas seulement dans notre pays, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat. Et il y a d'ailleurs des milliers de salariés dont c'est le métier. Ça s'appelle les experts fiscaux et ils font leur métier. Tout ça est très logique quand on prend aux gens plus de 60-70%.
Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une bonne chose?
Totalement moral.
Quand un élu républicain dit ça, alors qu'on sait très bien que ces révélations font polémique et qu'elles sont totalement impopulaires, comment vous réagissez ?
Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Gérard Longuet. Je crois que...
Mais c'est étonnant qu'il puisse le dire comme ça, alors que votre parti a une ligne...
Il ne m'a pas demandé l'autorisation avant de s'exprimer, mais je crois qu'il faut y répondre de deux manières. La première manière, c'est de continuer à améliorer notre arsenal juridique au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial, dans le cadre de l'OCDE, du G7 et du G20. Et il y a des choses qui ont été faites, je pense en particulier à la disparition du secret bancaire, qui est effectif en 2017 en Europe et en 2018 dans quasiment tous les pays du monde, à ce type de mesures de transparence qui permettent de lutter toujours un peu plus contre l'optimisation fiscale. Donc il faut y répondre en renforçant notre arsenal. Il faut aussi y répondre, et de ce point de vue-là, Longuet a d'une certaine manière raison, en abaissant la fiscalité qui est extraordinairement élevée en France, parce que il y a d'un côté tous les montages complètement artificiels d'optimisation ou d'évasion fiscale, mais par ailleurs, il y a aussi des décisions qui sont là économiques et qui consistent à localiser des entreprises ailleurs qu'en France, parce que les impôts en France sont trop élevés par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Donc il faut y répondre à la fois en étant, nous, plus attractifs sur le plan fiscal et en même temps, évidemment, beaucoup plus dur dans la lutte contre la fraude fiscale.
Et justement, à ce propos, Richard Ferrand, qui est le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a déjà déposé un amendement qui est en discussion, supprimant les droits civiques aux fraudeurs fiscaux. Est-ce que, si vous aviez été député, vous le voteriez ?
C'est exactement le genre de mesure qui fait parfois un peu désespérer de la politique.
Ah
c'est
bon
une mesure symbolique qui n'aura aucune forme d'efficacité. Moi, je préférerais que Richard Ferrand s'intéresse au renforcement des conventions fiscales, à l'amélioration.
Mais ça n'empêche pas.
Mais oui, bien sûr. Mais quand...
Donc, vous ne la voteriez pas, cet amendement, si jamais il arrivait à l'Assemblée.
Non, mais je la voterais peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que c'est complètement anecdotique. C'est complètement anecdotique. Il y a des dispositions qui feront certainement moins parler des députés qui les portent, mais qui s'appellent par exemple, le renforcement du contrôle de ces intermédiaires, de ces experts dont parlait Longuet tout à l'heure, qui sont des cabinets d'avocats, qui sont des cabinets d'expertise comptable. Et il y a des textes extrêmement précis, extrêmement techniques qui doivent s'imposer à eux. Donc il faut élaborer au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, et puis au niveau européen, pour renforcer justement la transparence et l'efficacité du contrôle. Et moi, je préférerais que Richard Ferrand s'intéresse à ça, pour lutter effectivement contre la fraude fiscale, plutôt juste d'un mot que d'essayer de se rendre populaire avec des mesures symboliques qui n'emporteront aucune forme d'efficacité.
Autre sujet, parce que le temps file assez vite, vous étiez déjà intervenu dans cette émission sous la forme d'un coup de fil à un autre invité, un invité du Front National. Vous avez écrit un livre qui dénonçait les propositions économiques du Front National, qui les démontait, même si on peut s'exprimer ainsi. Est-ce que c'est une bonne chose que l'Assemblée nationale ait levé cette semaine l'immunité parlementaire de Marine Le Pen dans cette affaire de diffusion de photos de l'État islamique sur Twitter ?
Oui, parce que la justice l'avait demandé et qu'il y a maintenant une tradition qui consiste à arrêter de permettre à des parlementaires d'échapper à la justice. Donc si elle est poursuivie par un juge, il faut que ce juge puisse aller au terme de son enquête. Moi, j'étais très profondément choqué par l'outrance de Marine Le Pen en la matière. Mais je considère, si vous me demandez mon avis personnel, que la liberté d'expression des parlementaires et des politiques est quand même une liberté importante en démocratie. Et que,
là, ce sont quand même des images qui tombent sous le coup de la loi.
Non, mais bien, si c'est le cas, elle sera condamnée, on le verra. Je pense qu'il ne faut pas trop encadrer la liberté d'expression des responsables publics. Voilà.
Juste une dernière question très rapide. On n'a pas
cinq
parlé
secondes pour répondre.
Voilà, de la démission de Christophe Bilan, qui est le président de Sens Commun. C'est quelque chose que vous souhaitiez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est symptomatique
elle
de ce qui pourrait se passer dans la ligne Wauquiez également?
Elle est absolument justifiée, cette démission. Christophe Bilan avait dit non seulement qu'il fallait faire alliance avec Marion Le Pen, mais aussi qu'on ne pouvait pas être français sans être chrétien. Maintenant, moi, je constate que Sens Commun n'a toujours pas désavoué les propos de son président. Et il ne faudrait pas que cette démission soit l'arbre qui cache la forêt. Moi, j'attends de Sens Commun une clarification idéologique.
Merci à tous les deux, Maëlle de Calon. Merci, Yannick Halimi.
Merci à
samedi prochain et merci à vous de nous avoir suivis. 8h58.